Voilà toujours cette invitation à la danse de ce petit générique qu'on a là, en commençant chaque rencontre. Bonjour, nous allons parler, vous le savez évidemment, avec Nathalie Léger et Gwenaëlle Aubry, que je remercie d'être là très vivement. Je suis ravi de vous rencontrer, ravi de cette rencontre, parce que j'ai beaucoup aimé vos deux livres et je crois qu'il y a beaucoup de points communs, donc il y a beaucoup de passerelles entre vos livres. Je ne sais pas si on aura suffisamment d'une heure, mais enfin, on va faire au mieux. On va certainement parler de la féminité, du chaos du monde, de la place de l'art et de la littérature dans ce contexte de violence particulier, contemporain. Ce sont tous les thèmes et bien d'autres qui traversent les deux romans. Donc on va avoir comme ça un jeu, je pense, de ping-pong entre les deux auteurs. Alors je voudrais vous les présenter très rapidement. Sans doute que vous les connaissez un peu, donc je fais vite. Nathalie Léger, qui est à côté de moi. Vous avez fait des études de théâtre, vous venez du théâtre, vous avez travaillé avec Vitesse, avec Lavelli, avec Jacques Lassalle, donc avec des très grands. Vous êtes chercheuse à l'IMEC et vous êtes maintenant la présidente, donc la directrice, de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Vous êtes éditrice et notamment vous avez dirigé des ouvrages autour de Vitesse, de Barthes. Vous avez écrit un essai sur Samuel Beckett. Mais là, on va plutôt parler de vos romans, j'imagine. Alors, il y a eu l'exposition chez POL, tous vos romans sont chez POL, en 2008, qui tournait autour de la figure de la comtesse de Castiglione, qui a passé 40 ans à se faire photographier. Supplément à la vie de Barbara Loden, en 2012, autour de la comédienne américaine, qui est aussi la réalisatrice. Elle a fait l'écriture et la réalisation en 1970 de ce fameux film, pas très connu malheureusement, qui est un chef-d'œuvre, Vanda. Et puis, aujourd'hui, vient de paraître La Robe Blanche autour d'une artiste performeuse italienne, Pippa Bacca. Alors, peut-être pour compléter cette présentation, j'aimerais vous demander, on a dans ces trois livres, en fait, trois artistes, chacune à leur manière, trois femmes. Et dans chaque livre intervient la figure de la mère de la narratrice, qui est plus ou moins votre double, peu importe. Donc je voudrais savoir si à vos yeux, on peut parler avec ces trois livres d'un triptyque. Et si oui, en quoi ce serait un triptyque ?
Vous avez raison, c'est un triptyque. Je ne m'en suis aperçue peut-être au fond qu'au début de l'écriture du dernier volet. Et c'est toujours étonnant de bâtir quelque chose de manière rétrospective. Mais c'est sans doute comme ça que se font les vraies constructions, les plus solides. Soudain, une évidence paraît. Il fallait ces trois livres pour dire et même pour épuiser quelque chose. Trois livres donc qui se répondent dans la forme d'abord et dans l'obsession, dans l'enjeu et dans l'obsession.
Alors on va y revenir. Là, encore un mot quand même, c'est que dans chacun de ces livres, vous utilisez différentes sortes de matériaux. Vous tissez en fait le document, la fiction et une forme d'autobiographie. Alors je voulais savoir quel était le sens en fait de ce choix.
Mais, oui, c'est exactement ça. C'est le jeu aussi, c'est le plaisir. C'est presque, enfin c'est une jubilation incroyable de pouvoir circuler. Entre ces domaines, entre ces matériaux. Au fond, pour dire le plus intime, il me semble qu'il faut s'appuyer sur le plus extérieur à soi et donc faire ce travail de tissage, de couturage, d'aller et venu pour arriver à trouver une vérité. Et peut-être que, comment dire, l'impudeur de parler de soi, elle me semble adoucie, arrondie. Je pourrais m'y jeter, mais non, parce qu'au fond, c'est un peu ennuyeux de parler de soi. Et donc, en parler de biais, ça me paraît plus juste, plus intéressant aussi.
Et puis peut-être que justement d'utiliser aussi le document et la fiction vous donne des moyens supplémentaires pour exprimer cette vérité que l'autobiographie toute seule ne vous permettrait pas de dire.
Il faut reconnaître que les moyens sont très divers. Un des moyens que procure le documentaire, enfin, c'est par exemple de retarder le moment où on va s'engager par l'écriture dans quelque chose de plus personnel, de plus difficile. La recherche documentaire, c'est un plaisir fou. On défriche, on rentre tout doucement dans son sujet. Et c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles j'installe ces recherches et cette écriture dans l'espace qui peut être aussi de l'autobiographie et du roman, comme vous l'avez dit.
Alors, on va revenir sur tout ça. Je voudrais présenter d'un mot Gwenaëlle Aubry, que j'ai déjà rencontré quelques fois ici, et notamment nous évoquions tout de suite la mémoire de Mathieu Riboulet, puisque nous avions eu une belle rencontre avec Mathieu au moment où vous aviez écrit Passage. Alors Gwenaëlle, vous êtes normalienne, vous êtes philosophe, vous êtes notamment spécialiste de Plotin, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez écrit des essais de philosophie, dont on ne va sans doute pas beaucoup parler aujourd'hui. On va parler de vos romans. Le premier, c'était en 1999, Le Diable Détacheur, chez Actes Sud. Et puis en 2002, il y a eu L'Isolé, suivi en 2003 de L'Isolement. Deux livres très liés. En fait, c'est deux livres qui faisaient entendre la voix du non-muré, la voix d'une personne prisonnière, inspirée de la figure de Florence Ray. En 2009, vous avez écrit Personne, un livre qui moi, m'a énormément marqué, un portrait de votre père et de sa mélancolie en forme d'abécédaire. En 2012, il y a eu Partage, dont je parlais à l'instant, deux adolescentes en miroir, l'une juive, l'autre palestinienne. En 2015, Lazare mon amour, sur Sylvia Plath. En 2016, si je ne me trompe pas, Perséphone 2014. Et en 2018, là paraît La folie et Lisa. Là, je dis très vite parce qu'on va y revenir. Quatre femmes de nationalités différentes qui se mettent à l'écart, volontairement, pour un temps, accueillie par la narratrice dans une grande maison, la folie Elisa. On va y revenir, mais peut-être j'aimerais vous demander à vous aussi si quel lien vous voyez, parce que moi ils me paraissent quand même évidents, quel lien vous voyez entre vos trois derniers textes, parce que c'est à chaque fois des femmes d'excès, on pourrait dire, d'une certaine manière, des créatrices sûrement, et des femmes au moins à multiples visages.
Oui, merci d'ailleurs d'évoquer ces précédents textes, parce que de fait, il travaille de façon très précise dans La folie Elisa, y compris d'ailleurs à travers deux personnages récurrents, Ariane Seale, qui elle, en vérité, est échappée de mon premier roman, mais surtout Sarah Zygalski, qui est échappée de Partage. Et c'est vrai que ce livre-là intègre en partie la question de la réception de Partage, et notamment de cette espèce de logique de l'assignation à laquelle j'ai été beaucoup confrontée à travers ce livre. Logique des camps, logique des guerres, logique du je suis, à laquelle ces quatre-là, les quatre voix qui résonnent dans La folie Elisa, cherchent à échapper. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un livre, celui-là, qui est très sédimenté, mais c'est vrai que l'une des sources, c'était le désir de continuer à explorer ce motif que j'avais commencé à interroger à travers Perséphone 2014 et peut-être plus encore Lazare mon amour. Disons des petites folles, comme Marguerite Duras s'appelait l'Olvestein dans un très beau texte dans La vie matérielle. Elle parle avec beaucoup de tendresse de l'Olvestein, enfin une tendresse un peu harassée en même temps. Elle décrit l'Olvestein campant à la porte de ses livres, campant devant sa maison. Elle dit « ma petite folle ». Et ce motif-là m'intéresse parce qu'il s'agit pour moi d'interroger une espèce de, disons, de rapport déréglé entre l'intérieur et l'extérieur, d'extrême porosité au monde, aux autres. Ce sont des filles sans frontières, en fait, borderline, mais no borders aussi, très peu barbelées, très peu fortifiées. Et voilà, interroger cette espèce de porosité, d'éventuelle fragilité-là, mais le moment aussi où elle s'inverse en puissance amoureuse, en puissance créatrice, interroger ce sursaut-là.
Alors, on va essayer de vous présenter rapidement chacun des deux livres, parce que j'aimerais qu'on ait beaucoup de temps pour que vous puissiez parler toutes les deux. Alors, la Robe Blanche, donc je l'ai dit, très beau roman qui paraît chez POL en cette rentrée. En fait, vous, Nathalie, vous tissez deux motifs, deux lignes narratives, dans ce livre. Il y a d'abord celle d'une artiste italienne, dont on va parler tout de suite, sur laquelle la narratrice du livre enquête. Cette artiste s'appelle Pipa Bacca. Enfin, elle a beaucoup d'autres noms, mais elle se fait appeler Pipa Bacca. Elle est partie de Milan en 2008, habillée d'une robe blanche de mariée, pour rejoindre Jérusalem via notamment les Balkans et la Turquie, et en stop, en autostop. Avec ce projet à la fois sublime et complètement fou, par ce geste de porter la paix dans les pays qui ont connu la guerre. C'est une performance magnifique, c'est une performance dérisoire aussi, qui tragiquement ratée, on va y venir. Et la narratrice enquête donc sur cet artiste et sur son geste. Mais sa mère intervient en permanence. Elle est souvent auprès de sa mère et sa mère intervient en permanence. Elle l'empêche, en fait, elle la retient de faire ce qu'elle cherche à faire. Sa mère est une femme trahie qui a été abandonnée par son mari et elle l'exhorte à raconter son histoire, en fait, pour lui rendre justice. Et vous tissez voilà, ces lignes très très serrées en fait, pendant tout le livre. Alors, on pourrait peut-être commencer par présenter Pipa Bacca rapidement. C'est une femme, en fait, vraiment, j'ai trouvé, énigmatique.
Oui, à tel point d'ailleurs que l'enquête peine à la cerner. Hein. C'est une jeune femme de 33 ans qui n'est pas connue du tout en France. En revanche, son histoire a défrayé la chronique italienne. Et pour cause, donc, c'est une jeune artiste de la scène un peu marginale, la scène artistique un peu marginale de Milan, une héritière d'une longue lignée d'aristocrates milanais, passée par le fascisme italien, et qui est très investie de l'idée que l'art doit poursuivre une mission. Crée cette performance autour de laquelle elle travaille pendant de très nombreux mois. Et elle prépare ce voyage de Milan à Jérusalem avec des étapes. Elle va parcourir donc les pays en guerre, en particulier les Balkans, son projet, mais pas seulement. Et son projet, c'est de s'arrêter en plusieurs étapes dans des grandes villes, d'y faire là une seconde performance à l'intérieur de la première, en faisant des lavements de pieds à des sages-femmes, pour leur faire dire la beauté de la naissance. Elle est toujours en robe de mariée et elle ne se déplace qu'en autostop. Donc c'est un voyage surchargé de signes, à commencer celui de la robe de mariée. Et ce voyage va être interrompu tragiquement au sud d'Istanbul, puisqu'elle est embarquée, comme tout au long de son voyage, dans une voiture par un homme qui la viole, qui la tue, et qui l'enterre sous un taillis, dans un petit bois. Et au fond, ce voyage tout à fait tragique touche, confine presque à ce point-là au grotesque, puisque il se trouve qu'elle voyageait avec une caméra, et que le tueur, l'assassin, se saisit de sa caméra, avec lequel elle filmait les étapes de sa performance, de son geste artistique, et ne cesse, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée, ne cesse de filmer. Et qu'est-ce qu'il filme ? On l'a retrouvé dans les archives de Pipa Bacca. Il filme un mariage. Et donc, l'espèce de boucle d'effroi qui parcourt cette histoire ne pouvait manquer, dès lors qu'on en prend connaissance, d'appeler quelque chose. Et cette histoire, encore une fois, on a parlé d'un Nobel de la paix en Italie, encore une fois, a beaucoup mobilisé l'opinion publique. La sanctification, le Nobel de la paix, 2000 personnes à son enterrement quand le corps a été rapatrié. L'histoire a marqué, et en effet, elle est marquante.
Oui, c'est une histoire absolument fascinante. Moi, j'avoue que ça m'avait complètement échappé. Je l'ai découvert en lisant votre livre.
On n'en a pas du tout parlé en France.
En France, voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en lisant votre livre, on ne comprend pas tout de suite ce que cherche la narratrice. On comprend qu'elle est fascinée. Soi-même lecteur, on est totalement fasciné par cette histoire. Et plus on avance dans l'histoire, plus on est scotché, en fait. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, en fait, plus profondément à découvrir, la narratrice ? Qu'est-ce qui l'intéresse, au bout du compte ?
Au fond, quel est le sens de ce geste ? On a beaucoup dit que cette fille avait fait une énorme bêtise, qu'elle avait bien cherché ce qu'elle avait trouvé. On a beaucoup dit qu'au fond, c'était le tueur qui avait réussi ce qu'elle avait échoué à faire. Et simultanément, en tout cas, c'est ce que la narratrice cherche à interroger. Je crois qu'on ne peut pas répondre au sens de ce geste. On ne peut que l'interroger. Et en même temps, est-ce que parce qu'un geste est raté, est-ce que pour autant son intention ne reste pas grande ? Est-ce qu'il faut ricaner parce qu'elle a cherché à répandre le bien, qu'elle a utilisé des moyens sans doute candides au service d'une intention qui nous reste obscure derrière le discours comment dire, d'harmonie. Il y a sans doute quelque chose, enfin, une volonté aussi, peut-être un désir de sacrifice. Tout ça, on ne peut que l'interroger. Hein. Et se frayer un chemin à l'intérieur de ce geste, se frayer un chemin pour traverser, comme elle l'a fait sans doute, ces déterminations complexes, le mal, le bien, faire un geste vers l'autre, la confiance, la cruauté, réparer. Voilà, c'est tout ça que la narratrice cherche et peine à faire. Et c'est pour ça que dans cette difficulté à accomplir ce travail d'enquête, elle est interrompue par une autre exigence.
Voilà, alors par celle de sa mère, je le disais très rapidement tout à l'heure, en fait, la mère de la narratrice a eu un itinéraire compliqué. C'est une femme qui a été
compliquée
bafouée.
Ou banale.
Ou peut-être banale, oui. Oui, c'est vrai, malheureusement. Oui. Mais c'est une femme quand même qui a été bafouée, qui a été écrasée, qui a été abandonnée par son mari. Et elle vient, donc elle harcèle même, il faut bien dire, sa fille, la narratrice, pour que, en fait, elle raconte... elle raconte en fait son histoire. Et je me suis demandé, parce qu'au début, j'étais très pris par l'histoire de Pipa Bacca, et au fur et à mesure de la lecture du livre, c'est finalement l'histoire de la mère, le rapport entre la mère et la fille, la demande qui est folle aussi de la mère, comme si elle pouvait être sauvée par l'écriture. Et finalement, je me suis demandé si c'était... Parce que ça aboutit là à une forme de réconciliation entre la mère et la fille. Je me suis demandé si c'était pas finalement le point d'aboutissement du livre.
Sans doute. Et le point d'aboutissement, comme vous le disiez tout à l'heure, du triptyque. Et ce point d'aboutissement, c'est sans doute, sinon une réconciliation, peut-être une réconciliation avec elle-même, pour la mère. En tout cas, la tentative par les mots, par le livre, de réparer une souffrance. Cette souffrance, elle est banale, c'est ce que ne cesse de dire la narratrice. C'est une souffrance conjugale, c'est la souffrance à l'intérieur d'une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça regarde chacun des protagonistes. Mais la souffrance de la mère est telle, l'humiliation ressentie si forte, qu'il y a la nécessité, enfin en tout cas, ça s'exprime sous la forme d'une injonction, qui démarre sous cette forme-là. « Venge-moi », dit-elle à sa fille. Et tout l'effort de la fille, qui est obligée de quitter cette enquête sur son artiste italienne, donc ce grand sujet pour se confronter au petit sujet de la mère, tout l'effort de la fille, c'est de transformer l'injonction de la vengeance. Et en effet, c'est un peu difficile, une mère qui demande à une fille de la venger de son père. Et c'est de transformer cet appel à la vengeance en tentative de justice, et peut-être tout simplement à la fin, et grâce aux mots eux-mêmes, grâce peut-être à la littérature, à tout simplement dire le juste. Et c'est peut-être dire le juste qui permet à la mère de trouver enfin la paix.
On va y revenir. Ça m'a, j'avoue, énormément touché de cette partie du livre. Alors... de quelques mots, mais malheureusement, évidemment, c'est toujours un peu réducteur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer d'évoquer le propos de la folie, Elisa, avec vous, Gwenaëlle. D'une certaine manière, vous aussi, vous tissez des histoires, les histoires de quatre femmes qui sont quatre femmes de nationalités différentes, d'âges différents aussi, et qui sont toutes victimes de violences diverses d'ailleurs. Ça peut être des violences intimes, des violences extérieures. Il y en a notamment une qui a été victime d'un attentat. Ce sont quatre femmes en fuite qui se mettent à l'écart volontairement pour mieux repartir en fait, et qui vont trouver refuge. Ça se passe pendant l'année 2015, donc une année très particulière. En France, c'est l'année des attentats, c'est l'année de la montée de l'extrême droite, c'est l'année de la crise des réfugiés, déjà. Et elles vont se réfugier chez une cinquième femme, que vous appelez L, juste de la lettre L, ou L, E2LE, dans sa maison, perdue au bord d'une rivière, qui s'appelle La Folie Elisa. La folie, c'est vrai qu'il y a des maisons qu'on appelle des folies. Et la narratrice va faire entendre l'écho des quatre monologues des femmes qui se racontent, mais qui ne se rencontrent jamais, en fait. Elles sont séparées dans cette maison. Alors, peut-être d'un mot, Gwenaëlle, pourrait-on essayer de présenter ces femmes, ces quatre femmes?
Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit des victimes. Hein. Je crois que ce sont vraiment des figures fortes du refus et de la fuite. Ce sont quatre fugueuses. Donc il y a Amy Manifold, une rockstar anglaise, qui comprend après le Bataclan qu'elle ne pourra plus remonter sur scène. Il y a Irini Santoni, une sculptrice grecque, qui, hantée par les corps qui s'échouent sur la plage de l'île grecque où elle a une maison, ne sculpte plus qu'une matière ultra-noire qui s'appelle le Vanta Black, un noir radical, enfin, qui absorbe la quasi-totalité de la lumière incidente. L'ultra-noir, donc, elle est barbelée. Il y a Sarah Zygalski, dont on parlait tout à l'heure, que je retrouve, devenue danseuse à Berlin, qui va à Berlin pour affronter ses fantômes, ses hantises, et rattrapée là-bas par tout ce qu'elle avait fui. Dans cette séquence-là, 2015-2016, tombe et ne peut plus danser. Et puis Ariane Seale, une actrice française, donc Ariane, là encore échappée de mon premier roman, et qui, un soir de dernière sur la grande scène de l'Odéon, alors qu'elle joue le rôle de sa vie, elle joue Isée dans Le partage de midi de Claudel, après des années de galère, les choses vont enfin bien pour elle, et elle cesse de jouer pour s'adresser au public. Voilà. Ce sont des filles qui cessent de jouer. Vraiment dans tous les sens du terme. Nathalie parlait de jeu tout à l'heure, mais c'est aussi en ce sens où elle n'arrive plus à recomposer le réel. Ce sont des filles qui quittent la scène. Le livre les saisit là, dans cette espèce de sidération. C'est vrai que ce livre fait entendre l'écho diffracté à travers leurs quatre voix, d'une sidération qui a été la mienne, qui a été celle de beaucoup d'entre nous, sans doute. C'est-à-dire, le livre les saisit au moment où elles ont perdu leurs armes et leur foi, où elles n'arrivent plus à renvoyer au monde la violence qu'il leur fait. Adorno dit ça, que l'art permet de renvoyer au monde la violence qu'il nous fait. Elles n'y arrivent plus, provisoirement. Elles ont perdu leur bouclier de percée, et c'est vrai que c'est l'état dans lequel, dans lequel je me suis trouvée, moi aussi, avant d'écrire ce livre, et que j'ai traversé avec ce livre et qu'elle traverse aussi, parce qu'une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont cette espèce d'impuissance va s'inverser en une très grande puissance et peut s'inverser plus encore en une forme de puissance collective, parce que ça, c'est l'un des enjeux en fait du livre, c'est comment quitter la chambre, puisque ce livre se construit par chambre, on en parlera peut-être, aussi bien la chambre amoureuse, la chambre des amants, que la chambre à soi de l'écriture, que ces chambres effectivement insulaires ou asilaires, c'est vrai, où elles sont réfugiées, ou depuis lesquelles elles parlent, parce que très curieusement, c'est la forme théâtrale en fait de l'adresse qui s'est imposée à moi pour faire entendre les voix de ces filles qui cessent de jouer et qui quittent la scène. Et c'est vrai qu'elles ne se rencontrent pas, qu'elles ne se rencontrent qu'à travers cette autre à laquelle elles s'adressent, mais qu'elles sont liées tout de même d'abord par des hommes aimés, et puis par un graffiti énigmatique qu'elles croisent de ville en ville, SMA, et que chacune va interpréter à sa façon, et qui donne à chacune finalement les clés de son histoire, de sa maison. Le graphe a un rôle important dans ce livre, parce que dans le vocabulaire du graphe, on parle de punir les murs. Voilà, c'est quand même beaucoup un livre sur les murs, sur ce qui s'effondre à l'intérieur d'elles, et ce qui se dresse partout ailleurs. Oui.
Alors vous avez raison, c'est vrai que c'est pas, c'est très vite dit de dire que ce sont des victimes, ce sont des femmes qui résistent hautement, qui sont agressés, mais qui résistent. Peut-être que, si vous le vouliez bien, là je vous prends un peu par surprise, j'ai oublié de vous en parler avant de commencer, mais j'aimerais bien que vous lisiez page 81, le paragraphe. Est-ce que, ou alors je le lis, si vous le mettez, je le lirai sûrement moins bien que vous, je préfère que vous le lisiez, parce que je pense que ce passage permet, c'est page 81, c'est elle qui parle en fait, et ça permettrait peut-être de les définir et d'être moins rapide que je ne l'ai été.
Elles ont des arêtes trop vives, de trop fines cloisons et la peau transparente. Le monde les traverse, les renverse en coups de vent, elles vont plus vite que lui. Elles ne cherchent pas le bonheur, elles ne lui résistent pas, il leur est indifférent. Ce qu'elles veulent, des commencements. De grandes rafales de vie. L'envers, l'endroit, elles distinguent mal. Elles portent leur peau comme un gant retourné. À l'intérieur d'elles, je vois des empreintes, beaucoup d'empreintes. Des fêtes somptueuses et des tas de cendres. Un nom acharné. Elles sont très belles, ou l'ont été. Elles sont maladivement jeunes. Elles ne veulent pas plaire. Elles font tout. Pour déplaire, juste être aimé, juste absolument aimé, et alors se donner tout entière et tout droit. Chacune d'entre elles fut un jour délogée. Elles connaissent par cœur les recoins de la perte. Droguées dans l'âme, c'est ce qu'elles sont. Toujours trop haut, trop bas, trop loin, trop près, elles ont en commun une forte intolérance au réel médian. L'ordinaire les effraie, elles sont en manque, elles ont la fièvre. Elles sont la fin.
C'est très beau ce passage, je trouve. Alors, j'aimerais qu'on vienne à un thème peut-être qui est commun, qui a trait à la composition en fait de vos deux livres. C'est que c'est une forme de très intéressante de fragmentation du texte, même si la lecture des deux livres est extrêmement fluide. Alors peut-être, je commence par vous, Nathalie. Les deux histoires, celle de Pipa Baka et celle de la mère, sont tissées serrées, on l'a dit, mais le roman est construit sur des ruptures, sur des corrélations, en fait. C'est-à-dire que le lecteur est bousculé, il y a des choses qui commencent à s'interrompre, passent à autre chose, notamment de Pipa Baka à la mère. Et le lecteur est bousculé, il est toujours en alerte, ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme expérience de lecture, à l'instar de la narratrice, d'ailleurs. Alors, je voudrais savoir comment vous avez... C'est pas d'ailleurs la première fois que vous... Les textes précédents étaient un peu comme ça aussi. Comment vous composez vos textes ?
Vous dites la narratrice est dans cet état... En fait, c'est l'écrivain qui est dans cet état de curiosité. Le fragment... Bon, d'abord, c'est une manière de... Ça vient d'un fracas. Voilà. Il y a un sujet, et c'est important d'éviter trop de continuité... C'est inventant. Barthes parlait au théâtre, il parlait de ne pas être empoissé. Moi, ça m'ennuie d'être trop saisie dans un sujet. Parfois, ça peut être haletant. Et d'ailleurs, le fragment n'empêche pas que ce soit à l'intérieur du fragment qu'il y ait un rythme, une pulsation. Mais ce qui est intéressant, c'est de composer, c'est d'agencer, c'est de commencer et de terminer. Et les ruptures, elles permettent de convoquer tellement, tellement de choses. Par exemple, la question de la robe. C'est vrai que la robe de mariée, c'est plus qu'une thématique. Enfin, c'est un motif anthropologique, ça a une histoire. Et c'est très interprété, surinterprété dans l'histoire de l'art. Donc, comment conjuguer à la fois l'exigence narrative, hein, être pris par le destin de ces personnages, de ces femmes, et comment en même temps jouer de la rupture comme une écriture cinématographique au fond. Hein. Au cinéma, on ne s'interroge jamais ou rarement quand il y a un long plan séquence suivi de très courtes images qui viennent d'ailleurs dans un autre temps, sans parler des flashbacks. Enfin bon, comment inscrire ça dans l'écriture, c'est un plaisir. D'abord et avant tout.
Vous, Gwenaël, sur ce même thème, en fait, on disait que les femmes ne se rencontrent pas. Elles parlent chacune à leur tour, et elle parle à la narratrice qui s'en fait l'écho. Et on passe comme ça de l'une à l'autre. Mais leur personnalité quand même, leurs expériences, bien sûr, se font écho. Et elles sont liées par certains hommes et par la narratrice.
Et par la maison. Bon, en fait, la construction, c'est vrai que ce livre se construit, je le disais tout à l'heure, par chambre. Les chambres, ces quatre chambres claires où résonnent les voix des quatre femmes, et puis une caméra obscura, une chambre noire, qui est tissée d'extraits de presse, de la presse européenne de cette année-là, 2015-2016. Et bon, il se trouve que ce livre, en fait, porte le nom d'une vraie maison que j'aimais, où j'ai vécu, où j'ai travaillé, que j'ai perdue, et qui s'appelait vraiment la Folie Elisa. Donc folie en son sens architectural, comme dans la Folie Allmayer de Conrad, et du latin feuille, enfin folia, feuille, et Elisa, l'anagramme, même le palindrome d'asile. J'ai perdu cette maison, ce qui est une histoire sans grand intérêt, même si on sait que les murs d'une maison portent une mémoire, portent un passé. Donc ces murs-là aussi s'effondraient. Et en même temps, faire de la perte de cette maison un objet direct, alors que le monde compte 68 millions et demi de réfugiés, me paraissait indécent. Mais d'abord, j'ai voulu sauver quelque chose de la structure de cette maison à travers la structure de ce livre. Il se trouve que je voulais interroger, je le disais tout à l'heure, un certain type de rapport entre le dedans, le dehors, l'intérieur, l'extérieur. Et puis j'avais besoin, j'ai toujours besoin d'abord d'essayer de trouver une forme nouvelle pour chaque livre, parce que pour saisir un point de réel qui n'a pas forcément été saisi ou dit, il faut une forme nouvelle, il faut un instrument nouveau. Et j'avais besoin là d'une contrainte formelle stricte, parce que je devais affronter une matière très noire, justement, très récalcitrante. On parle en sculpture, et Irinis en fait l'écho, de matière réfractaire. Là, j'avais cette matière réfractaire de l'ultra-contemporain. C'est très compliqué comment on se saisit l'ultra-contemporain. D'abord de façon pérenne, et puis comment on s'en saisit sans le redoubler et sans le réduire. Je ne crois pas que la littérature soit faite pour consoler. Et ça, c'est une question qui est très présente dans le livre de Nathalie aussi, qui me passionne. C'est la question de la réparation que tu interroges avec beaucoup de douceur et d'obstination à la fois. Bon. Moi, je n'y croyais plus à la réparation. C'est une question qui a été... Pardon, je fais une parenthèse, mais c'est parce que c'est tellement important. Mais moi, j'ai longtemps été accompagnée dans l'écriture par ce mythe de la cabale lurianique. Vous savez, cette idée magnifique selon laquelle tout le mal, tout le négatif du monde dans lequel on vit tienne à l'absence d'une lettre. Gershom Scholem parle de ça. Bon, quand on écrit, c'est évidemment un mythe auquel on s'arrime. On se dit que de livre en livre, on traque la lettre absente, on traque la lettre qui va réparer le négatif du monde. Ce mythe-là, je ne pouvais plus m'y agripper. Bon. Donc je ne crois pas que la littérature soit là pour consoler, mais pas non plus pour se lamenter. C'est pour ça que j'ai une sorte de réticence avec ce mot de victime. Donc il s'agissait de saisir cette matière noire, cette matière réfractaire, sans la redoubler, sans non plus la réduire, de trouver la forme dans laquelle l'enchâsser. Il fallait la réactiver aussi. L'enjeu de la caméra obscura, c'était ça. C'est-à-dire que ces journaux, on les a lus tous. On les a reçus, je pense, tous, ces chiffres croissants de mort en mer, ces suffrages croissants de l'extrême droite, et c'est loin d'être fini. Bon, on les a reçus dans cette espèce de... Le monde a basculé, quand même. Bon, on est requis par ça. Et en même temps, une trace, ça s'efface. Donc il s'agissait aussi pour moi de la réactiver, cette trace-là, qu'on ne s'y habitue pas. Vous savez, ce terme étrange d'état d'urgence, comme si l'urgence était un état dans lequel on pouvait tranquillement s'installer. Bon. J'ai voulu réactiver l'urgence, voilà, sans qu'elle devienne un état. Et donc j'avais besoin, pour tout ça, de cette contrainte formelle. Et puis il suffisait de déplier en fait ce nom de Folie Elisa pour ouvrir le livre. Enfin, c'est un asile de feuilles. Tout livre est un asile de feuilles. Elisa, chaque initiale de ce prénom a dicté le nom de l'une des quatre figures. A même dicté la récurrence en fait des personnages d'Ariane et de Sarah, et puis le livre interroge aussi la question de l'asile de façon centrale.
Et alors vous La composition du livre est assez théâtrale. Tout à l'heure, vous parliez de l'adresse directe. Là, on est complètement dans le théâtre. Et puis, il y a aussi l'organisation. En fait, il y a 3 actes et puis 4 scènes par acte, 4 chambres, 4 femmes. Donc, il y a chambre 1, puis 2, puis 3, et puis ensuite, l'acte 2, chambre 2, chambre 2, 2, etc. Donc, au total, c'est une composition très intéressante et très théâtrale, en fait.
Oui, merci de relever ça. J'avais besoin, en effet, il y a une unité de lieu très précise, qui est la maison. Il y a cette séquence temporelle qui est très découpée, janvier 2015, janvier 2016. Et le livre s'est écrit aussi entre 2 matins de janvier 2017 et 2018. Une fois de plus, je pense que j'avais besoin de cette espèce de contrainte formelle pour saisir cette matière. Et parce que aussi la contrainte, on le sait, bon, Pérec l'a suffisamment dit, et Pérec est évidemment la vie mode d'emploi et encore au travail aussi dans ce livre-là, bon, parce que la contrainte suscite du jeu aussi. Et que l'une des grandes questions du livre, c'est comment recommencer à jouer. Et quel jeu peut-on encore jouer?
Alors il y a bien sûr un thème qui traverse vos deux livres et qui est évident, c'est l'interrogation sur la féminité. Nathalie Léger, vous présentez deux femmes bafouées, deux femmes meurtries, mais en fait deux figures contrastées, j'ai trouvé. La mère est une femme effacée, elle a été abandonnée par son mari, la justice l'a déboutée de sa plainte. Elle a même rendu responsable, en fait, de l'abandon qu'elle a subi. Elle s'est laissée écraser, d'une certaine manière. Enfin, moi, je le lis comme ça, vous n'allez peut-être pas être d'accord. Tandis que Pipa Baka, même si elle perd, et Dieu sait si elle perd, puisque malheureusement, elle en meurt, elle a osé se porter en avant, se porter dans la lumière, dans l'espace public.
Mais je pars du réel, hein. Cette artiste italienne et cette mère qui est la mienne, et ce dossier de divorce qui est une archive. Donc je ne construis pas là des personnages pour illustrer un propos préalable qui serait parler des femmes. Je ne pense pas d'ailleurs que ce n'est pas du tout l'enjeu. Mais j'observe que autour de cette relation à la représentation qu'on peut se faire à travers cette robe de mariée, par exemple, la représentation de soi-même dans le monde, cette jeune artiste italienne comme cette femme mariée dont la conjugalité n'a pas été heureuse, j'observe des trajectoires. Elles peuvent être cocasses, elles peuvent être burlesques. Je crois que la narratrice ne cesse de renvoyer sa mère dans les cordes. Et tout ça tisse en effet, sans doute, un certain rapport des femmes au réel. Hein. Mais c'est vrai qu'entre la tragédie de cet artiste et le parcours beaucoup plus domestique de cette femme, la mère, ma mère, je crois qu'il y a à la fois, il y a tellement d'illusions, de représentations, de formes, de formes sociales, et d'échecs, que ça donne une certaine idée de, je ne sais pas, du monde sans doute.
Certainement, oui, certainement. Chez vous, Gunaël, ces 4 femmes, je ne sais pas si vous les voyez comme... D'une certaine manière, évidemment, elles sont très différentes, elles ont chacune leur histoire, mais moi, au bout d'un moment, je les ai lues comme quelque chose qui se nouait entre elles et qui finissait par faire une espèce de figure totale, en fait. Et on est, pour les 4, dans un mouvement qui passe, en fait, de la démolition à la reconstruction.
Oui, je crois qu'il y a vraiment ce mouvement-là a été même pas forcément réfléchi, mais une fois de plus, on traverse en même temps qu'on écrit un livre, on traverse beaucoup de, on passe d'un bord à l'autre. Bon, moi, j'avais besoin de ce livre-là pour traverser quelque chose, de toute façon. Et je crois qu'il y a cette, Oui, elles sont traversées, elles, par une espèce de puissance finalement très anonyme et très profuse. Enfin, une puissance amoureuse, d'abord une puissance érotique. Enfin, c'est un livre qui parle beaucoup, je disais tout à l'heure, c'est un livre qui parle beaucoup de la porosité des murs qui tombent, mais aussi de ce qui, dans cette porosité-là, autorise la rencontre et ce qu'il peut y avoir voilà, cette espèce de miracle insulaire de la rencontre amoureuse ou érotique. Donc il s'agit de corps fêlés, sans doute, de corps partiellement, pas brisés, mais fêlés, voilà, mais qui sont traversés par une très grande puissance. Et l'une des questions du livre, bon, c'est évidemment c'est la question de Hölderlin, c'est que peut l'art en temps de détresse, mais aussi que peut l'amour en temps de détresse, est-ce que ça suffit encore, mais c'est aussi comment cette puissance-là peut se transformer, je le disais, je crois, tout à l'heure, en une sorte de puissance collective. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin, mais ça c'est quelque chose qui me frappe quand même dans le champ littéraire ultra-contemporain, certains des livres qui m'ont le plus intéressé ou requis ces dernières années mobilisent d'une façon ou d'une autre quelque chose qui relève de l'utopie, ou je pense par exemple au dernier roman d'Arnaud Bertina ou de Chloé Delhomme, il y a ce recours à l'utopie ou à la dystopie d'ailleurs, mais il y a ce besoin d'inscrire quelque chose qui puisse être un autre état du monde. Vous savez, Heiner Müller dit ça, la littérature doit rappeler qu'un autre état du monde est possible. Et cette nostalgie, ajoute Heiner Müller, est révolutionnaire. Bon. Moi, j'ai eu besoin d'ouvrir ce livre à un autre état du monde. Pas sous la forme de la ritournelle de l'espoir, parce qu'il y aurait, je pense, là encore quelque chose d'indécent, mais sous la forme d'un texte qui est traversé par l'Apocalypse, qui est traversé par Ivan Shegloff, et qui fait converger autour d'elle, derrière elle et derrière ce graffeur qui punit les murs, qui fait converger tous les exilés et tous les damnés. Voilà. Bon, j'ai eu besoin de cette ouverture là.
Oui, c'est ça. Je comptais bien sûr y venir. Là, j'aimerais bien revenir aussi sur cette question que vous avez soulevée, qui traverse votre livre. Que peut l'art en temps de détresse face au chaos du monde? Ou alors la question, Nathalie, la littérature peut-elle rendre justice, qui est aussi au cœur de votre livre? Parce que, en fait, là, à un moment, la mère dit à sa fille, tu peux agir pour moi, tu peux parler pour moi, tu peux me défendre et me venger. C'est-à-dire qu'en fait, elle voudrait que la littérature lui rende justice. Et évidemment, la fille est très gênée avec cette demande-là, qui était une forme de naïveté, en fait.
Alors, oui, de naïveté, mais au fond, la fille, et peut-être l'écrivain même, s'y résout, s'y rend, parce qu'il y a une vérité dans cette demande. La mère a subi une injustice, un divorce inique. Des faux témoins se présentent et disent une réalité humiliante et fausse. Bon, mais qu'est-ce que c'est que rendre justice sinon examiner des récits? C'est ça, au fond. Et donc, en face de ce tribunal qui s'est dressé dans les années 70, à un moment où le divorce, de manière conventionnelle dans le sens, sous la forme d'une convention, presque d'une fiction, devait être très dur. Hein. Il y avait quelqu'un qui devait l'emporter. En général, c'était l'homme. Et puis il y avait une victime, en général c'était la femme. Bon, pour contrebalancer au fond assez simplement, voilà, il y a ce poids de mots qui reste dans ce qu'on appelle les minutes du procès. Les minutes du procès, ils sont comme très ordinairement les archives, ils sont dans une boîte à chaussures, dans une malle, dans un grenier, mais ça existe, c'est écrit. Ben, pour réparer l'humiliation, pour dire à une femme, quelqu'un sait que ce n'est pas vrai. Quelqu'un sait qu'il y a eu un abus de mots. Quelqu'un sait qu'il y a eu une souffrance. Il fallait, en face, poser un poids, peut-être pas équivalent, ne rêvons pas, mais un autre poids de mots. Et j'ai l'impression qu'au fond, c'est quand même beaucoup pour ça qu'on écrit tous, selon des modalités, bien sûr, chaque fois singulières. Mais en tout cas, moi, il me semble que c'est pas une naïveté. C'est au fond quand la mère dit « tu peux me défendre et même me venger, et tu vas le faire par les mots, tu seras mon sismographe », elle ne demande que ça, une déposition. Voilà. Et ça se fait dans un cube de papier, dans une maison des feuilles, comme dit Gwenaëlle.
Simplement, la narratrice, vous apportez une nuance avec deux mots dans lesquels il y a juste dans les deux, justice et ajuster. C'est page 121, je ne veux pas rendre justice, à peine ajuster. Voilà, ça oui, ça l'écriture peut le faire, ajuster. Ajuster à l'aveugle, c'est peu et c'est décisif.
C'est un détail biographique, mais quand ma mère a lu le livre, elle m'a dit « tu m'as sauvée ». C'est tout ce que... Enfin, c'est pas tout ce que je demande, mais d'une certaine manière, c'est tout ce que je demande à ce livre. Ça a rempli son...
C'est énorme, en fait.
Je trouve.
Oui, bien sûr.
C'est vrai que, au fond, quel que soit le détour, qu'il soit très frontalement biographique ou pas, et là je m'avance sur peut-être un terrain trop personnel, mais parce que la vraie question, c'est peut-être quand même la forme dans laquelle c'est dit. Quel que soit le motif personnel, ben voilà, j'ai perdu le fil, pardon.
Mais de toute façon, vous pouvez reprendre la parole quand vous voulez. Gwenaëlle, cette question, vous l'avez évoquée vous-même, on peut essayer d'approfondir. Les quatre femmes, en fait, au début du livre, elles ont abandonné leur art. Comme s'il était devenu impuissant, en fait. Il y a ce sentiment, il y a un très fort sentiment de presque de dépression, quand même. Enfin, moi, j'ai senti ça, en tous les cas, un sentiment d'impuissance, certainement. Et alors, peut-être revenir sur cette question, parce qu'elle est vraiment au cœur du livre, sur que peut l'art en temps de détresse, la fameuse question.
Je ne crois pas la saisir dans un état de dépression. Un état d'impuissance, oui.
Donc pas la dépression.
Et une fois de plus, de grand refus. Il y a une très grande vitalité dans le refus et dans la révolte. Elles se sauvent. C'est vraiment des filles qui se sauvent dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'elles prennent la fuite et dans la fuite, elles cherchent leur salut. Et ce sont aussi des filles qui tombent, c'est vrai, qui vont vers un point de chute, vers une espèce de point de ravage. Mais il faut une très grande vitalité pour aller vers son point de chute. Et en fait, on a besoin d'aller vers son point de ravage pour sculpter, pour danser, pour jouer, pour écrire. Vraiment, on en a besoin. Mais pour s'en sortir, enfin, je veux dire, en sortir sans sortir, c'est toujours cette même question. Hein. C'est la phrase de Gerasim Luka, hein, comment s'en sortir sans... Bon. C'est ça qui se joue aussi dans ce livre-là. Et puis, oui, cette question du jeu, comment on se remet en mouvement, voilà. Ça, pour moi, toute la question de l'écriture est sans doute au-delà de l'art se joue, mais plus particulièrement quand même de l'écriture, parce que je trouve que c'est ça que je vois, c'est cette pratique-là qui est la mienne. Ça se joue vraiment dans l'articulation entre le désir et la sidération. Voilà. Comment on sort de la sidération pour relancer le désir, pour relancer le mouvement. Ce qui peut se dire aussi bien comment on met le silence en musique, comment, bon, tout à leur façon, elles diffractent ça. J'avais pas du tout envie de parler frontalement de l'écriture parce que, voilà. C'est vrai que par ailleurs, le théâtre, la musique, la danse, ce sont des pratiques qui me sont proches. C'est vrai aussi, il y a eu, c'est assez anecdotique, mais ça a été en fait très important. Pendant cette période-là, je jouais, bah d'ailleurs on a joué ici, j'avais monté une lecture concert de ce texte sur Sylvia Plath, Lazare mon amour. On était cinq, j'étais accompagnée par une actrice et trois musiciens, dont Bastien Lallemand qui est là. Et on devait remonter sur scène le 20 novembre, on devait jouer à Lille, une semaine après le Bataclan. À 20h précise, on devait être sur scène. Voilà, je leur ai écrit à tous pour leur demander s'ils étaient prêts à remonter sur scène et s'ils avaient envie de jouer. Et l'un d'entre eux m'a répondu, mais bien sûr qu'il faut jouer, et plus fort que jamais. Et cette phrase-là est reprise d'ailleurs dans le livre. Une fois de plus, comment on recommence à jouer? Et c'est vrai que ces questions de... Nathalie parlait de ces effets de réception. Je monte une lecture musicale de La Folie Elisa, dont on a donné une petite forme à Strasbourg il y a deux semaines, avec ce musicien dont je parlais, Seb Martel. Et à la fin, un homme qui était là nous a dit qu'il était lui-même, pendant toute cette période-là, il m'a dit, j'essaye de retrouver ses mots exacts, il m'a dit, j'étais comme un enfant, je n'avais plus de mots, j'étais impuissant, et en vous écoutant, il écoutait aussi, Seb était à la guitare, etc., en vous écoutant jouer et lire, j'ai eu l'impression de traverser ça, et maintenant je suis de l'autre côté. Il nous a dit ça, je suis de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en l'espace de trois quarts d'heure, il a refait le mouvement, qui est celui de ces quatre-là, qui était mon mouvement écrivant ce livre. Et oui, là, on se dit, voilà, le travail est fait, parce que quelque chose s'est remis en mouvement, parce qu'une traversée a pu s'accomplir, et parce que de nouveau, on peut jouer.
Cette question de que peut l'art, elle est aussi dans votre livre, évidemment, Nathalie Léger. D'abord parce que vous interrogez la démarche de Pipa Baka, qui est vraiment en plein dans cette question, et puis parce que vous convoquez à cette occasion de nombreuses performances, les figures de nombreux performeurs contemporains.
À vrai dire, c'est comme ça que j'ai été attentive à cette histoire de Pipa Baka. J'étais dans un jury au Frénois, à Roubaix, une école d'art visuel, film. Et il y avait un jeune étudiant qui avait fait son sujet de mémoire sur cette histoire-là. En voyant, il a fait un documentaire sur elle, il a rencontré la famille. Et il se trouve qu'après avoir traversé comme prétexte la photographie avec la Castiglione, après avoir traversé comme prétexte le cinéma avec Barbara Loden, j'avais envie de travailler sur la performance, parce que l'histoire de la performance est passionnante, mais ce que les femmes en ont fait dans les années 60-70, alors là, c'est grand. Il y a une provocation, une capacité de transgression à travers cet art de la présence, de l'irruption de la présence, oui. Qui est, je sais pas, Yoko Ono, Vali Export, Carole Schneemann, Marina Abramović, bien sûr. Et c'est vrai que, évidemment, je n'avais pas envie de faire un essai sur la performance, mais je traverse des performances. Et il n'y a rien de plus romanesque qu'une performance. Ça se raconte très facilement. Simplement, c'est un roman un peu fou à chaque fois. Enfin, c'est une toute petite. Des éclats romanesques très fous, parce que ce sont presque tous les gestes que vous auriez rêvé de faire et que vous n'avez jamais osé accomplir. C'est ça, là, d'une certaine manière, la performance. Et c'est vrai que c'est un matériau, non pas fictionnel, mais un matériau romanesque merveilleux. Et puis, quand on interroge le sens d'un geste, celui de Pipa Baka, ou peut-être même celui de l'écrivain qui tente de réparer la souffrance d'une mère, c'est un médium merveilleux.
Alors, votre livre également se termine, même si les dernières pages sont consacrés à ce tueur qui a filmé le mariage après avoir assassiné Pipa Baka, vous l'avez raconté tout à l'heure, mais juste avant quand même, ça se termine sur une ouverture, puisque ça se termine sur la réconciliation avec sa mère, qui dit, tu as écrit pour moi, tu as redonné par les mots qui manquaient, par les mots interdits, ma voix vivante, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc là, il y a un peu le même mouvement que le livre de Gwenaël, ça se termine par une ouverture quand même.
Oui, bien sûr, je crois que au terme d'une construction, enfin, au terme de la construction, il faut par une sorte d'ultime, comment dire, révolte, enfin, tour, ouvrir vers le monde. Cela dit, là, dans le cas de la robe blanche, il y a quand même dans le réel, il y a eu un meurtre. Et c'était difficile de parachever simplement l'histoire, et il fallait terminer en interrogeant cet effroi, et puis aussi cet incompréhensible, enfin, c'était difficile pour moi de simplement s'achever par une résolution.
Et Gwenaëlle, vous avez déjà parlé de cette ouverture, donc on va pas y revenir. Simplement, ce qui est intéressant, peut-être ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que le roman est composé de deux parties, une très grande qui s'appelle « Dedans », et puis une très courte, la deuxième, qui s'appelle « Dehors ». C'est juste les dernières pages, mais elles sont essentielles, puisque c'est effectivement le développement de l'utopie dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, c'est que le livre se termine par le fait que ces femmes quittent la chambre et elles ne choisissent pas l'asile comme enfermement, elles choisissent l'asile comme accueil, comme on accueille les demandeurs d'asile.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est exactement ça. Le livre fait travailler de cette façon-là, la troublante et belle équivocité du mot asile. Et puis cette question-là qui le traverse aussi. Qu'est-ce qui du monde est encore habitable? Où dans le monde peut-on encore habiter? Bon, qui est évidemment aussi la question de la poésie, la question de l'art, et la question de Steglov. Voilà. Comment construire l'hacienda? Elles vont construire l'hacienda. Que peut-être déjà s'est esquissé dans les chambres amoureuses. J'avais à l'esprit en écrivant ce livre une phrase de Bataille dans L'amour d'un être mortel qui dit que dans le vide mental presque illimité où nous sommes, les chambres verrouillées sont l'unique endroit, l'unique îlot où les figures de la vie se recomposent. Voilà, elles recomposent là les figures de leur vie dans des chambres verrouillées. Qui sont des chambres amoureuses aussi, et puis elle les déverrouille, oui.
Ouais. Alors, le temps passe vite, mais heureusement, on a quand même quelques minutes. Si vous souhaitez, à votre tour, poser des questions à Gwenaëlle Aubry ou à Nathalie Léger, ou faire des remarques. Madame, je vous remercie de tout de suite lever le doigt. On va vous passer un micro. Bonjour, madame.
Bonjour. C'est une question pour Gwenaëlle Aubry. Vous disiez, Michel Abesca, que vous aviez été marqué par personne. Moi, c'est un livre qui m'a plus que marqué, que j'ai lu, relu, relu, relu. Donc déjà, je voulais lui dire que je la remercie infiniment parce que je suis très émue parce que j'ai trié ma bibliothèque sur un seul critère il n'y a pas très longtemps. Je suis professeure de français, donc j'ai beaucoup de livres. Qu'est-ce que j'ai envie de relire? Et c'est le premier livre, et je l'ai là dans mon sac. Après, j'ai une vraie question sur votre dernier livre que je n'ai pas encore lu. En vous écoutant, j'étais triste de penser que me revenait l'histoire de Colette qui, pendant la guerre de 14, s'est réfugiée dans un pavillon. Ça a été écrit, c'est Colette et les siennes. Donc il y avait Musidora. Il y avait Moreno, donc il y avait une danseuse, il y avait une femme de théâtre, et il y avait une journaliste, et il y avait Colette. Et Colette était en état apparemment de sidération. Elle ne pouvait plus se faire à manger. C'est quelqu'un qui lui faisait les courses, qui faisait à manger, etc. Et j'étais triste de me dire que voilà, ça recommence.
Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de me dire. Et c'est très étrange que vous me parliez de... Parce que je me souviens maintenant que j'ai lu un livre récent apparu sur... Oui, c'est ça. Voilà, oui, merci. Et c'est drôle parce que j'ai dû lire une recension de ce livre au moment où j'écrivais La Folie Elisa. Et je l'ai oublié depuis. Vous êtes la première à m'en reparler. Mais oui, c'était... Ce type-là d'asile, oui. Oui, oui, ça recommence... Ça recommence, non, en fait, ça recommence jamais. C'est toujours sous d'autres formes que... Mais voilà, enfin, on a des armes aussi.
Merci, madame. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Oui, madame, je vous en prie. Attendez, on va vous passer un micro, parce que sinon, on ne vous entend pas. Voilà, bonjour, madame.
Bonjour, une petite question pour Gwenaëlle. Je voulais juste interroger la dimension féminine du livre. Est-ce que ça aurait pu être quatre hommes?
Ah, merci, je me la suis posée, cette question. Oui. Au début, je le disais tout à l'heure, il y avait quand même il y avait ce motif des petites folles. Bon. Et en même temps, je les ai construites à la jonction de, comme toujours, on construit des personnages, c'est-à-dire à la jonction de, d'abord de figures réelles. Enfin, vous voyez, derrière Amy Manifold, il y a Amy Winehouse, il y a Edith Piaf. Bon. Mais
Et certaines de ces figures pouvaient être aussi bien des figures masculines. Par exemple, la figure de Nijinsky, qui d'ailleurs est présente explicitement dans le livre. À un moment, je lui emprunte, même j'emprunte un mot à son journal. J'écris « Elles ne sont pas une invention, elles sont la vie ». Et ça, c'est Nijinsky qui l'écrit dans son journal. Il dit « Je ne suis pas une invention, je suis la vie ». Et au moment où j'écrivais ce livre, je travaillais en fait avec une danseuse et une musicienne pour un trio performé. Et on a fait entendre, j'avais fait un montage du journal de Nijinsky. Donc il est très présent. Enfin, vous voyez, cette espèce de porosité dont je parlais, cette espèce de rapport déréglé intérieur-extérieur, voilà, je pense qu'il est là chez beaucoup de créateurs. Mais j'ai toujours une réticence à, de même qu'elles disent qu'elles détestent le mot artiste parce que je n'aime pas cette espèce de revendication du statut d'exception qui va avec le. Voilà. Bref. Mais c'est présent chez beaucoup. C'est présent chez voilà, celui que j'aime, enfin, bon, chez Michaud, par exemple, qui est là tout le temps, que je lis tout le temps, etc. C'était un motif qui était très présent dans Personne déjà, cette espèce de d'ouverture à la foule intérieure. Bon. Donc oui, peut-être qu'elles auraient pu être un peu aussi des hommes. Elles le sont. De toute façon, non, mais je pense que oui, elles le sont. Je pense qu'elles le sont parce que ce qu'il y a chez elles, c'est une fois de plus ce refus du régime de l'assignation. Et ça, je crois que c'est Sarah qui le dit. Elle dit oui, je suis juive, je suis Charlie, mais je suis aussi l'arbre dont je danse les racines. Je suis aussi Anita Berber et Nijinsky. Je suis aussi Yann, c'est son amant. Je suis une possédée. Elles se sont toutes écrites sous ce signe-là de la possession. Elles sont les autres, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elles sont les autres, hommes y compris.
Merci, madame. Quelqu'un d'autre souhaite le micro ? Non, personne ? Ben écoutez, alors on va en rester là. Je vous rappelle, ces deux livres, sans exagération, ces deux livres vraiment d'exception. Nathalie Léger, La robe blanche qui vient de paraître chez POL, et Gwenaëlle Aubry, La folie Elisa qui vient de paraître au Mercure de France. Je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à cette table ronde. Merci de votre attention.